senior. J'adore. J'adore.
Bonjour et bienvenue sur votre antenne Radio G 101.5 FM. Vous êtes bien sur Grande Sagesse, Humeur Légère. À l'heure, on est le 27 octobre et l'équipe n'est pas tout à fait au complet. Mais heureusement, il y a Jean-Jacques qui est là. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour à vous.
Salut Josiane.
Bonjour, quel plaisir.
Bonjour oui. Jacqueline.
Bonjour à vous.
Et on n'a pas Marc, mais on a Adonis qui est là pour le remplacer.
Il n'a pas de chapeau.
Bonjour Adonis.
Ah, il a rajeuni.
Bonjour. Bon, alors, pour excuser Marc, Marc a une pharyngite aujourd'hui et je l'ai eu au téléphone. Il est vraiment dans l'incapacité de vous offrir sa plus belle prestation.
Ça donc, fait mal la pharyngite.
Voilà, c'est comme tous les trucs en hit, hein, le coït, le... Non, pardon. Pardon.
Ah bon?
Désolé. Bon, je vais essayer d'élever le niveau. Pour ça, je vais utiliser une petite phrase de Marc. Donc Marc m'a envoyé comme phrase du jour: tout est chemin, tout est raccourci si l'on se tient la main. Voilà, ça vous inspire ou pas?
Ah, oh, c'est chouette, hein, magnifique.
Hein, ça, on a besoin de ça en ce moment, de solidarité, de fraternité, de sororité, de tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ça quand même.
On dit bonjour à Marc. Hein.
Bah, bonjour Marc. Salut.
Ou plutôt bonjour Marc. Oh, il est vache, il est vache.
Bon, Adonis.
C'est pas gentil de se moquer.
Adonis va essayer de le remplacer du mieux qu'il peut
bonjour
aujourd'hui.
Bonjour Adonis.
Alors, Adonis.
Lui, au moins, il a de la voix.
Il nous suit depuis quelques années et aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. Donc, Adonis, tu peux nous rappeler quel âge tu as ?
12 ans.
12 ans ?
Bon. Wow.
Et là, tu viens nous faire une chronique sur quoi aujourd'hui ?
Pourquoi aimer ses grands-parents?
Bon, on en parle tout à l'heure, hein. C'est pas mal comme
ça. Ah, c'est un vaste sujet.
Pourquoi? Pour les vacances, c'est pas mal. Bon, en attendant, je
Alors, tu sais, les grands-parents, quand ils reçoivent leurs enfants, ils les appellent les chicoufs.
Chic,
quand ils arrivent, ouf, ils repartent.
Non, mais la question d'Adonis, elle est intéressante. Je vais la poser à mes petites filles dans 2 jours.
Bon, voilà. Et voilà. Bon. En attendant, je vous propose, une première petite.
Et Adonis, tu souris, mon trésor.
Oui.
Bah oui, on a ce problème-là dans la famille. Bon, je vous propose tout de suite une petite pause musicale. Alors cette année-là que vous allez devoir deviner. Et je vous propose une première chanson. Allez, on va se mettre un petit peu de gaieté dans le cœur et je vous propose d'aller siffler là-haut sur la colline.
Oh, super.
Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
c'était le plus beau râteau, la plus belle veste par Joe Dassin, hein, quand même. Elle n'est jamais venue. C'est quand même triste comme chanson au final. Mais avec quel entrain?
Ah oui, hein, elle est très entraînante. Bon. C'est très vrai.
Bon, ça vous évoque quelques souvenirs?
Oui.
De râteau?
des rendez-vous loupés?
Non, mais il était souriant, ce mec.
Ah, moi, j'aimais bien parce que, puis il avait un charme et, alors, en plus, il était toujours vêtu, souvent en blanc, d'ailleurs.
Oui. De manière. Sur scène, il est en blanc.
Hein, toujours en blanc. Et puis, une présentation, mais vraiment, magnifique, quoi.
Alors, faut quand même dire sur Joe Dassin, un petit truc. Moi, je me rappelle, c'était Eddie Mitchell qui en parlait. C'est un très bon guitariste.
Ouais.
Sauf que bon. Il n'est pas connu comme guitariste. C'est un peu comme Sacha Distel.
Sacha Distel était un merveilleux guitariste.
Et, il disait, Eddie Mitchell est regretté. Il disait, parce que, ouais, il était
c'était
bon.
C'était pas un neveu de Ventura?
Oui, Sacha Distel.
Sacha Distel.
Oui, absolument.
Ma fille était petite et quand elle entendait Joe Dassin, elle disait, oh, j'aurais bien voulu que ce soit lui, mon papa.
Et quand tu parles de Ventura, c'est pas Lino, hein, c'est Ray.
Ah non, c'est Ray Ventura, bien sûr.
Ah oui, alors c'est important de préciser parce que moi j'avais pas la référence. Hein.
Ah oui,
c'est Ray Ventura.
Ah bah oui,
effectivement.
Jacques Elian, tout ça.
Bon, c'est un monde qui nous échappe à Denis. Hein.
Ça ne parle qu'à des gens d'un certain âge.
Bon.
Ou qui s'intéresse
d'un âge certain.
Ou d'un âge certain, oui.
Bon, les amis, on va faire une petite capsule de France Alzheimer 49. Vous savez, on s'est engagé à passer leur capsule jusqu'au mois de novembre. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite la première capsule,
capsule de
monsieur Benoît Durand. On l'écoute tout de suite.
Alzheimer, tous concernés. La Minute Info de France Alzheimer.
Bonjour Benoît Durand, vous êtes directeur délégué de France Alzheimer et maladies apparentées. Grâce à vos 101 associations départementales, vous accompagnez depuis 40 ans les personnes malades et leurs proches. Comment vous soutenir financièrement ?
Alors, il est important déjà de rappeler que la maladie d'Alzheimer est un enjeu majeur de santé publique, puisque chaque personne malade, c'est toute une famille qui est impactée. Ensuite, pour nous soutenir financièrement, vous pouvez évidemment faire des legs ou des donations, ce qui va nous permettre de financer à la fois des bourses de recherche, et c'est aussi financer toutes nos actions quotidiennes, puisqu'on est la seule association qui accompagne au quotidien les personnes impactées par la maladie. Et donc, avec 100 000 euros d'assurance vie, on peut financer 300 formations des aidants, et avec 1 million de legs, on peut financer une bourse de recherche.
Pourquoi transmettre une partie de son patrimoine a du sens ?
Nous confier une partie de votre patrimoine à travers des legs, des assurances-vie, des donations. C'est à la fois un acte solidaire de soutien aux malades, mais c'est aussi donner du sens à un projet porteur qui nous permet de poursuivre nos missions prioritaires. Et c'est aussi perpétuer une mémoire quand on sait le sens que ça peut avoir pour la maladie d'Alzheimer.
Et où se renseigner pour accomplir ces démarches ?
Vous pouvez vous renseigner auprès du service Legs et Libéralité de France Alzheimer et sur notre site internet francealzheimer.org.
Depuis 40 ans, avec ses activités adaptées à chaque étape de la maladie, ses bénévoles et ses 101 associations départementales, France Alzheimer et Maladies Apparentées est la seule association qui accompagne au quotidien les personnes impactées pour les aider à toujours profiter de la vie.
Alzheimer, nous sommes tous concernés. Pour nous soutenir, rendez-vous sur francealzheimer.org.
Donc, c'était Benoît Durand de l'Union Nationale France Alzheimer qui nous rappelle qu'on ne fait rien sans rien, finalement. Hein. Moi, je proposerais bien un petit leg de Monsieur Bérard Arnault, ça serait pas mal, quand même.
Ah, hein. Ça, ce serait super.
je lisais...
Et en plus, c'est déductible des impôts. Et
exactement, Monsieur Arnault, à votre bon cœur, s'il vous plaît.
Et à utiliser tout de suite, hein, pas à mettre en réserve.
Je lisais cette semaine que sa fortune s'élève à 152 milliards de dollars.
Hein. C'est pour nous, c'est absolument... Voilà. Comme si tu allais sur Mars, hein.
Inimaginable.
Ouais, mais
on va pas se rendre compte.
Il boit de l'eau comme nous, il va aux toilettes comme nous, il boit peut-être pas dans les mêmes verres que nous, ça c'est possible.
Je pense, c'est peut-être pas dans les mêmes restaurants non plus.
Non, effectivement. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, le France Alzheimer ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Et il y a besoin vraiment de fonds pour financer les formations des aidants animés par des psychologues et des bénévoles, hein, les bénévoles qui sont essentiels à la vie des associations. Et effectivement, il faut couvrir certains frais et ça passe par tous ces actes de bienfaisance. Bon, des choses à rajouter, messieurs, dames, ou pas ?
Non, mais c'est totalement essentiel ce que tu viens de dire.
Mais est-ce qu'il a une idée du monde associatif ?
Monsieur Arnaud?
Ça m'étonnerait.
Ah, il doit avoir un club très privé des 10 fortunes de la planète, je sais pas, mais non.
Il y a pas que lui, hein.
Ouais. Non, mais de toute façon, les très très grosses fortunes ne vivent pas sur la même planète que nous.
C'est ça. Bon, je vous propose la seconde capsule de France Alzheimer et on revient tout de suite après.
Alzheimer, tous concernés. La minute info de France Alzheimer.
Pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées et offrir une meilleure prise en soin, l'Institut France Alzheimer forme les professionnels qui accompagnent les patients en perte d'autonomie. Bonjour Lynne Fourcroy, vous êtes responsable de cet institut. Pouvez-vous nous le présenter ?
L'Institut de formation France Alzheimer a été créé depuis 1991. Il est leader sur le champ de la formation professionnelle sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Chaque année, près de 2000 professionnels soignants sont formés sur la maladie d'Alzheimer. Dans les profils qu'on peut retrouver, on a des cadres de santé, des infirmiers, des auxiliaires de vie et des aides-soignants également. Toutes ces personnes accompagnent du coup une personne malade en établissement ou à domicile. Et l'objectif de l'Institut, c'est de pouvoir outiller ces professionnels afin qu'ils puissent d'une part ajuster leur comportement et leur posture quand ils font face à une personne qui a un trouble du comportement, mais également travailler leur communication. Pour pouvoir bénéficier de nos formations, rien de plus simple, il vous suffit donc d'aller sur www.francealzheimer.org dans la rubrique formation, télécharger notre bulletin d'inscription. À la fin de ce bulletin d'inscription, vous trouverez nos coordonnées et vous pourrez donc nous renvoyer le bulletin à formation@francealzheimer.org et pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 01 42 97 99 80.
Depuis 40 ans, avec ses activités adaptées à chaque étape de la maladie, ses bénévoles et ses 101 associations départementales, France Alzheimer et Maladies Apparentées est la seule association qui accompagne au quotidien les personnes impactées pour les aider à toujours profiter de la vie.
Alzheimer, nous sommes tous concernés. Pour nous soutenir, rendez-vous sur francealzheimer.org.
C'était donc France Alzheimer, hein, et Madame Fourcroy, effectivement, elle explique bien que la formation, elle est adressée effectivement aux aidants familiaux, mais aussi aux professionnels. Et l'Institut de formation de France Alzheimer est quand même assez reconnu. Et enfin, pour avoir vu il y a quelques années des professionnels non formés, on voit tout de suite la différence. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres?
Ah bah tout à fait. De toute façon, il faut absolument être formé pour pouvoir, en particulier dans le milieu médical, pour pouvoir accompagner les malades. Sinon, le comportement est tellement bizarroïde parfois qu'on est complètement déstabilisé.
Et on se forme tout au long de la vie aujourd'hui. C'est un petit peu ce qui a changé aussi depuis 20 ans. C'est vrai qu'on pensait tout connaître et finalement, on découvre toujours
tout
plus de choses.
Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas un malade qui ressemble à un autre. Oui. Les symptômes sont très différents d'une personne à une autre.
Est-ce que dans notre émission, on a déjà dit d'où venait le terme Alzheimer? Et depuis quand ça date?
Alors Alzheimer, je vous parle de mémoire, c'est Alois Alzheimer qui a découvert la maladie en 1906 sur une patiente jeune. Et donc il a fait des observations, des cas cliniques très très étudiés, et il a fait une observation post-mortem du cerveau qui avait drastiquement réduit en taille. Donc c'est là où il a pu vraiment signifier la physiologie de la maladie. Mais c'est vrai que 1906, c'est pas tout jeune. Hein. Maintenant,
parce qu'on parlait de démence sénile, tout simplement, à une époque.
On les envoyait chez les fous. Hein.
Oui.
Mais on ne savait pas que c'était neurologique. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu, des confusions dans le traitement médical, mais à leur décharge, c'est une maladie qu'on ne soignait pas.
Non.
Qu'on ne guérissait pas.
Ne guérit pas.
De toute façon, on l'appelait autrement.
Oui, mais c'est vrai que la démence sénile, c'est quelque chose qui est pas acceptable par beaucoup de personnes.
Ah bah absolument.
Parce que derrière le mot démence, il y a souvent une connotation religieuse et le démon, il a rien à voir là-dedans.
Ah
quoi.
Bah non.
Dans tous les cas, c'est vrai que là, on en parle un petit peu de cette maladie. L'Union nationale France Alzheimer fait tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour accompagner les familles. Et j'ai envie de dire, dans le contexte économique, politique, social actuel, je crains que ce soit encore plus important. Et n'hésitez pas à aider les associations, parce que malheureusement, elles font aussi le travail que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire. Hein. On l'a déjà dit, je le redis, et j'en suis réellement convaincu.
On a des malades jeunes aussi. Hein. Il n'y a pas que des personnes d'un certain âge.
Il se trouve qu'on est allé avec Jacqueline à une conférence mercredi soir, où le médecin gériatre Romain Ordonez nous indiquait que l'an dernier, ça a été diagnostiqué chez une personne de 18 ans.
Oui. C'est terrifiant.
L'an dernier. Hein. Faut préciser que là, on est sur une forme rare de la maladie.
Heureusement.
Qui est une forme héréditaire et ça concerne moins de 1% des personnes malades. Oui, oui. Et qui se manifeste vraiment par le malade jeune.
Mais là, c'est dramatique. Hein.
Je veux pas faire de hiérarchie dans les maladies, mais il n'y a pas une maladie qui en vaut une autre.
Ta vie, elle est complètement percutée de front. Et puis, on sait que de toute façon, on ne peut pas la guérir, donc c'est inéluctable.
C'est pas très gai, mais on est sur le mois d'octobre rose.
Ouais.
J'ai envie de dire, le cancer du sein, évidemment,
c'est épouvantable aussi.
Il faut le soigner, mais il n'y a pas deux cancers qui sont sympas.
Il y a des espoirs de guérison, alors que pour le moment, la maladie d'Alzheimer, on est au point zéro au niveau des traitements, il n'y a rien.
C'est pas encore efficace.
Ça avance pas.
Ça avance. Ça avance bien plus que
dans la recherche. Mais pour le moment, il y a pas de.
Après, c'est le docteur Olivier Duval. J'en parlais avec Josiane en voiture, mais il disait un diagnostic sans plan d'action, ça ne sert à rien. Et c'est vrai que autrefois, on mettait tout dans la case Alzheimer, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a X maladies neurologiques qui sont apparentées, et c'est vrai que peut-être qu'on traitait mal certaines maladies, qu'on se trompait d'action. Donc aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans le diagnostic pour mieux soigner.
Ça viendra.
Voilà. Bon.
Tu te rends compte, excusez-moi, mais tu te rends compte, quelqu'un qui a à peine 30 ans en accueil de jour avec des personnes qui ont 60, 70 ans et tout, c'est épouvantable.
Oui, mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas besoin de dramaturgie, ils ont besoin de bon accompagnement.
Oui,
et puis voilà, les dons et les legs ça peut servir à ça.
Chose.
Exactement. On peut tous agir à notre mesure. Adonis ?
Oui, mais c'est bizarre ce que tu dis, parce que la personne la plus jeune à être diagnostiquée, elle a 19 ans.
Oui, alors ça, c'est pas encore tout. Tout n'est pas sur Internet, Adonis. Hein.
Oui, mais quand même.
Bon, mais en l'occurrence, on l'a entendu, Jacqueline et moi.
Je confirme.
Bah ouais, mais là, c'est marqué sur Internet.
Internet ne croit pas tout sur Internet. On est d'accord, la Terre est plate, hein, c'est marqué sur Internet. Hein.
Évidemment.
Bon, ne crois pas tout ce qui est sur Internet.
Il y a marqué. Un homme.
On passe à la suite. On en parle pendant le morceau de musique.
Ouais.
Bon, je vous propose une deuxième petite chanson. Je vous propose d'écouter Sylvie Vartan. Ça fait longtemps.
Hein. Oh, grand Dieu.
Allez, je vous propose le jour que le jour que le jour qui le jour qui vient. Allez, c'est parti.
Le jour qui vient me faire.
C'était donc Sylvie Vartan avec Le Jour qui vient. Alors Jean-Jacques, tu pensais que c'était une reprise, est-ce que tu as trouvé la reprise?
Pas pour l'instant, mais ça viendra.
Bon, ouais, je pense qu'effectivement, à l'époque, c'était légion de traduire des chansons de l'étranger. Et bon, dans le lot, il y en avait des bonnes quand même.
Ah bah bien sûr.
Bon, une année, ça vous précise un petit peu ou pas laquelle? En quelle année ça pouvait être ça?
Ça oh,
pas du tout.
Alors là, j'ai...
Ça a au moins 50 ans, je suis sûr.
Moi,
ça...
je pense dans les années 70.
Non, moi... Bah, n'oublie pas la chanson de Dassin tout à l'heure.
Ah.
Avant les années 70.
Ah oui.
Ah,
non,
oui.
Mais Sylvie Vartan... Non, je verrais ça plus récent.
Mais si c'est la même année.
Ah bah, c'est la même année, mais on se redit ça. On,
ah
bah,
la chanson que
on précise
la
avec les suivants.
Ah
ça,
oui.
Bon.
Donc,
bon. Bon, Jean-Jacques,
oui, monsieur.
Il me semble que tu as une petite chronique, on va dire, olé olé aujourd'hui.
Ah, alors, j'ai compris le message la semaine dernière. Ouais, Jean-Jacques, deux chroniques UFC que choisir, ouais, ça va, bon. Oh. Explication de texte.
Qu'il est glamour ce Jean-Jacques.
La Violette Terra. Vous reconnaissez peut-être cet air. Mais oui, il a été rendu célèbre par Charlie Chaplin dans le film Les Lumières de la Ville en 1931. Oh. Vous savez, lorsque le vagabond devient le bienfaiteur d'une jeune femme aveugle marchande de fleurs, Chaplin a utilisé cet air sans autorisation, ce qui lui a valu un procès qu'il perdit d'ailleurs. Ça, je l'ai appris en bossant le truc.
Ah oui, tu vois, ça je sais.
Il faut savoir que cette chanson est à l'origine une sorte de préquel d'un paquet de chansons, de films, de spectacles, dont des opérettes. Je dis bien des opérettes, et donc du film que je vais essayer de vous résumer maintenant. Violette Impériale est une opérette filmée en noir et blanc en 1952. On connaît aussi la version théâtrale avec Marcel Mercès et Paulette Merval, mais si l'histoire est sur le même thème, les parties musicales sont complètement différentes. Je le sais, puisque j'ai regardé les deux, alors protestez pas. En effet, la version Mercès-Merval doit ses airs, entre autres, à Vincent Scotto.
Ah bon, c'est vrai.
Alors que le film avec Luis Mariano, c'est l'œuvre musicale de Francis Lopez. Luis Mariano, rapidement, ses débuts, dès 1938. Et oui, déjà figurant dans le film Ramon Show, d'après le livre de Pierre Loti. Puis toute une suite de second et même huitième rôle, ça existe ça? Dans des films souvent oubliables et d'ailleurs probablement oubliés. En fait, en 1942, il tourne dans Le Chant de l'Exil. Il y joue le rôle d'un jeune basque chanteur, tiens donc, un rôle de composition, aux côtés de Tino Rossi. Tino Rossi, vous connaissez?
Oh bah oui.
Et Ginette Leclerc, vous savez, la femme du boulanger Rému avec la pomponnette.
La pomponnette.
Pour faire court, je vous ferai écouter uniquement des courts extraits musicaux, pas de dialogue. L'opérette, ce sont bien des chansons avant tout, non? Et d'ailleurs, les chanteurs d'opérette sont souvent de piètres comédiens. Sauf quand il y a un Bourvil ou une Annie Cordy. Mais par contre, ces chanteurs et chanteuses d'opérette chantent formidablement bien. Et c'est parti. 1850. Du Juan, c'est Luis. Séducteur volage aux dents éclatantes, brossé avec émail diamant. Il aime bien sa cousine Jenny, qui le lui rend bien. Et il lui chantonne Hilar.
Sur mon cheval marche un topa, je croise une belle, mon cœur bat, je la salue, elle rougit, ferme son ombrelle, puis s'enfuit plus loin, un peu plus loin. C'est l'amour qui va, qui vient à l'aventure, plus loin, un peu plus loin. Par les chemins.
Ah. Eugénie, c'est Eugénie de Montijo, ou Montijo, ou comme Montijo, comme vous voulez. Future impératrice quand même, je le rappelle.
Bah oui.
À celles et ceux qui ont négligé leur cours d'histoire, bah oui, elle sera l'épouse de Napoléon III. Vous savez, Napoléon le Petit, d'après Victor Hugo. Donc, Eugénie, jouée par Simone Valère, qui sera l'épouse de l'excellent comédien Jean de Sailly. Ou peut-être l'était-elle déjà en 1952, je l'ignore, je n'ai pas vérifié leur livret de famille dans Wikipédia. Eugénie rencontre à Grenade, pas le truc qui fait boum, ni le fruit avec plein de pépins, non, la ville au sud de l'Espagne. Vous suivez? Donc elle rencontre la belle Violetta, belle gitane, vendeuse de violettes, ben oui, joué non pas par Pauline Carton, mais par Carmen Sevilla, une actrice espagnole célèbre dans les années 50 qui lui prédit l'avenir d'une reine. Dites donc, astuce du scénario, hein. Autre astuce, Eugénie et son agaçante mère croisent à Grenade Prosper Mérimée,
wow,
qui fait allusion à sa prochaine création, Carmen. Oups, j'ai failli dire Carmen de Bizet. On a tellement l'habitude, alors quand même que Carmen, à la base, c'est une nouvelle de Prosper Mérimée. Donc, Prosper Mérimée leur annonce qu'il rentre en France car des événements politiques s'y préparent, paraît-il. De son côté, Juan tombe sous le charme de Violetta alors qu'il la voit danser dans une taverne.
Je voudrais vivre et chanter sous le ciel andalou. Dans ce jardin de l'Espagne où l'on danse partout. Jolie, toi qui lis la vie, ce soir dis-moi tout.
Oui, Violetta est aussi une danseuse. Elle tombe amoureuse de Juan, mais se refuse à lui. Mon Dieu, on se demande pourquoi. Il est quand même pas mal, Louis, non? C'est une vedette. C'est la vedette du film, quand même. Hein. Eugénie décide d'aller en France, voir ce qui s'y passe. Juan l'accompagne. Il se retrouve à Paris. Mais leurs bagages ont été égarés et Eugénie n'a pas de robe pour aller au bal impérial où elle est invitée. Mais Juan est un débrouillard et grâce à son charme fait faire par des jeunes couturières une belle robe, genre des bonnes fées pour Cendrillon, quoi. Et pendant qu'elles s'activent, il les accompagne en chantant.
D'un seul coup de sa baguette, une fée, c'est très normal, peut faire d'une pauvrette la reine du bal. Allez-y, mesdemoiselles, vous pouvez le faire aussi, puisque l'on vous appelle les fées de Paris.
Ainsi, la gentille et charmante Eugénie se retrouve au bal avec la plus belle robe de la soirée. Elle rencontre l'empereur Napoléon III qui tombe amoureux d'elle. C'est réciproque et ça fait des jalouses. Il y a dans cette histoire une méchante et c'est Madame de Pierrefeu qui fricote avec des opposants politiques. Eugénie devient impératrice et fait venir Violetta, qui était restée en Espagne, auprès d'elle, comme dame de compagnie. Mais Juan, souhaitant, semble-t-il, seulement une aventure, alors que Violetta espère le grand amour, pour l'instant, Juan n'arrive pas à conclure, même sur un malentendu. Et malgré ce qu'il lui chante, ça, oui, là, c'est la chanson la plus connue. Et au fait, je vous rappelle que Violetta est une vendeuse de violettes.
L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main.
Voilà,
sans attendre
un peu plus longtemps parce qu'elle est quand même non,
pas sur cette chanson.
L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une fois. C'est toi qui seras toujours mon seul amour.
Bon, c'est pas du métal. Hein. Mais Violetta, toujours aussi chaste, résiste à Juan et s'en va en claquant la porte. La méchante Madame de Pierrefeu, qui déteste Eugénie, l'impératrice, décide avec ses complices de la tuer.
Oh,
Violetta a tout entendu. Elle voit même la méchante Madame Pierrefeu se faire zigouillée par son complice pour éviter qu'elle parle de trop. Violetta prend la place d'Eugénie dans la calèche. Elle est blessée grièvement lors de l'explosion de la bombe placée sur la route qui devait conduire l'impératrice à une inauguration. Et Juan, touché par ce geste, comprend enfin qu'il est amoureux d'elle, sérieusement là. Pas uniquement sous l'influence de sa testostérone. Violetta, guérie, décide de retourner en Espagne. Juan l'y rejoint. Enfin, l'y rejoint, faut voir, hein, tout en chantant ensemble. Tous les deux, l'amour est un bouquet de violettes, ils marchent l'un vers l'autre. Mais ça dure, comme s'ils étaient à des kilomètres l'un de l'autre. Maintenant, on aurait droit à un ralenti tout en nous faisant comprendre qu'il court plus vite que deux gazelles. Bon, ils finissent par se rejoindre et par se marier. Beau mariage avec tout ce qui va avec.
L'amour est un bouquet de violettes. Vous fait signe et s'arrête. Il faut lui tendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. C'est toi, cueillon, cueillon, c'est pleurette. Car au fond,
Violette Impériale, un film de 1952, une opérette sympa, mais quand même d'un autre temps. Hein. J'espère que vous avez apprécié les belles images restaurées en noir et blanc.
Ah, on l'a retrouvé, notre Jean-Jacques. Hein. Ah, merci,
oui,
Jean-Jacques.
Merci. Moi, hein. Ça me donne envie de revoir le film, hein, tu vois.
Bon, bah, dans tous les cas, oui, c'est du cinéma d'autrefois.
Oui, mais ça fait du bien, tu vois, d'évacuer toutes les difficultés inhérentes à nos actualités.
Bah, quand je vous regarde, je pense que ce sont des airs qui n'ont pas vieilli.
Ah non, 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 non. Hein? Merci, c'est gentil.
Bon, l'amour est un bouquet de violettes. Bah, je crois que Adonis, il voulait nous parler d'amour justement aujourd'hui. Tu voulais nous parler de l'amour de quoi, de qui?
Ah oui, bah... Alors, pourquoi aimer ses grands-parents?
Bah voilà, pourquoi aimer ses grands-parents? Alors, nous t'écoutons.
Bah déjà, c'est des personnes de notre famille, donc c'est normal. On va apprécier les personnes de notre famille. Bah, deuxièmement, on passe du bon temps ensemble.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites?
Bah, on fait par exemple, des jeux de société, on peut faire des balades. Quoi d'autre? Bah, plein d'autres choses. Après, on peut...
Alors, attends, sur les jeux de société, vas-y, balance, qui c'est qui joue à quoi et qui c'est qui gagne tout le temps?
Au Monopoly.
Oui. Qui c'est qui gagne tout le temps?
Moi.
Bon, on te laisse gagner. Mon père a une chance insolente au Monopoly. C'est infernal.
C'est vrai?
Ah, c'est infernal. Et puis?
Alors, un petit point, bah, c'est pratique. Ça garde les enfants, ça dépanne, ça garde les animaux quand on va en vacances.
Ça rend service aux parents.
Ouais. Ça garde les enfants, ça évite de payer la crèche. C'est gratuit.
Ah là, vraiment, là, il balance. Hein.
Vous notez que je n'ai pas censuré la chronique. Hein.
Et il faut en profiter.
Ah ben, t'as bien raison.
Parce que des fois, ils font des gestes qui sont très gentils. Par exemple, quand ils font des tartines, ils nous apprennent des choses. Du coup, c'est bien. Et vous, pourquoi vous aimiez vos grands-parents?
Ah, oh, c'était pas pareil, c'était pas autre époque.
Malheureusement, je n'ai pas connu mes grands-parents.
C'était comment à l'époque?
J'en ai pas eu.
Alors,
rien à voir.
J'ai envie de dire, le côté affectueux était certainement différent. Il y avait une notion, enfin, moi, ma belle-mère qui me disait qu'elle vous voyait ses parents déjà.
En Vendée, par exemple. Oui,
bah on y est.
Ah bon.
Et c'est vrai qu'en les grands-parents, il y avait probablement quelque chose de très austère, non?
Je pense, oui.
Hein,
oui, puis c'est vrai que même les parents, on a vachement évolué par rapport à nos propres parents.
Alors, moi, mes grands-parents, oui, j'en ai pas connu, mais enfin, si. Grand-père, mais c'est vrai que c'est l'ancien temps. Par contre, j'ai déjà vu une évolution entre mes grands-parents, ou ma grand-mère, et mes parents.
Oui.
Hein, où c'est devenu beaucoup plus... D'abord, ma mère s'habillait pas en noir.
D'accord.
Comme pas mal de grands-parents ou grand-mères qui s'habillaient, qui avaient le fichu sur la tête et tout ça.
Alors, c'était le côté austère que je décrivais.
Oui, hein. C'est vrai.
Et ça a changé. Enfin, alors, ça, moi, je l'ai vu, l'évolution.
J'ai une amie, quand elle parlait de sa grand-mère, c'était elle qui tricotait les chaussettes, qui faisait plein de petites choses que la maman n'avait pas le temps de faire.
Mais le temps, c'est précisément ce qui, aujourd'hui encore, je pense, différencie les parents des grands-parents. Ah oui. Souvent, les grands-parents sont à la retraite, alors que les parents sont actifs.
Oui,
donc, il y a du temps différent disponible.
Mais même, je vais même dire quelque chose. Rien que le fait qu'on appelle, on appelait autrefois grand-mère, puis c'est devenu souvent, bien mamie. Souvent, mamie.
Ah oui. Moi, on m'a jamais appelé grand-mère. Moi, c'est toujours mamie.
Alors, je vais retourner la question. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aimer ses petits-enfants? Je me pose la question quand même.
Parce que
moi, n'ayant pas de petits-enfants.
Pas encore.
Les petits-enfants, si tu veux, d'abord, on n'a pas la même attitude avec ce qu'on a eu avec ses propres enfants.
Ce qu'ils peuvent nous reprocher.
Oui, certains.
T'étais pas aussi coulant avec
non,
moi.
Non, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus cool parce qu'on est détaché de
l'éducation.
On n'a pas les mêmes responsabilités. Et puis il y a des choses qui sont tolérées par les parents chez eux qui ne le sont pas chez les grands-parents.
Oui.
Donc il y a une différence aussi. Alors il y a beaucoup. Là, comme on est complètement détaché en dehors un peu de l'éducation et de remise en question parfois, on est beaucoup plus cool et puis on les emmène se promener, on va au cirque, on va dans les parcs, faire plein d'activités ou dans les musées, ce que les parents n'ont pas forcément le temps de faire.
Faut bien savoir que quand on est grand-parent, souvent on est retraité, donc on a plus de temps. Plus de temps par rapport aux petits enfants, alors qu'avant,
Et puis quand on élevait ses propres enfants, on était au travail, donc forcément, on n'avait pas non plus la même aptitude, je pense, avec nos enfants qu'avec nos petits-enfants. Ça, c'est sûr.
Non, mais ta question est vachement intéressante, hein. Vraiment, c'est. Oui. Et d'ailleurs, je te dis, dans deux jours, j'ai mes petites filles, après-demain, je vais leur demander, mais au fait, vous nous aimez bien ou pas? Non, on se l'est déjà dit.
C'est la réponse. Hein.
Oui, mais puis je sais pas, c'est inné, l'amour. Quand tu vois l'enfant de ton enfant, c'est quelque chose
quand
de...
La chair de ma chair.
Oui, non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je sais que qui a adopté mes enfants, quand ma fille a été enceinte, si tu veux, ça a été un bonheur absolu parce que j'ai vécu presque par procuration la manière dont elle était enceinte. Je l'ai accompagnée, je lui faisais écouter de la musique dans le ventre de ma fille. Mon premier petit enfant a été vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Au final, on peut dire que grands-parents et petits-enfants, ils partagent que le meilleur.
Ah oui.
Hein, on n'a pas les inconvénients du quotidien. Et puis,
alors on se fatigue plus.
Oui.
Parce que c'est vrai que plus on vit.
Parce qu'ils sont fatigants, les enfants.
Ils sont fatigants.
Comme disait Josiane tout à l'heure, c'est les chicoufs. Hein.
Et encore, vous n'avez pas Adonis. Hein.
Je suis vexée. J'ai entendu aussi beaucoup de personnes dire on profite de nos petits-enfants encore. Quand ils sont petits, parce qu'à partir de l'adolescence, ils n'ont
plus la même chose.
Sujet.
Bien sûr.
Voilà, donc on
les voit beaucoup.
C'est vrai que moi je trouve que c'est des années bonheur, ça c'est clair.
Moi, j'entends encore ma grand-mère dire petits enfants, petits soucis, et grands enfants, grands soucis.
Oui.
Et je crois que ma mère a pris le relais, elle le dit aussi.
Moi, je me rappelle quand mon fils est né, mon grand patron m'avait dit, à partir de maintenant, tu vas avoir peur jusqu'à la fin de ta vie.
Oui, il y a autre chose, effectivement.
C'est vrai.
Un autre état de conscience. Ouais.
Responsabilité.
Non, c'est merveilleux.
Bon. Dans tous les cas, moi, je vous propose d'écouter une petite chanson, toujours sur l'amour. C'est un peu le thème du jour. Hein. C'est pas la Saint-Valentin, mais on y va. Je vous propose d'écouter Salvador Aldamo avec L'amour te ressemble.
Toi, l'amour te ressemble. Et je me demande dans quel paradis perdu, dans quelle légende, quel rêve, où j'étais troubadour, j'ai pu te rencontrer un jour. Oh l'amour te ressemble si fort que j'en tremble. Et tu viens me surprendre quand je n'y croyais plus. Lassé d'attendre, j'allais au fil de mes jours noirs, perdu le cœur au désespoir. Toi, l'amour te ressemble, et cœur à cœur, restons ensemble. Et tu verras, mamie, que dans la longue errance, qu'avait été ma vie sans ta présence.
C'était donc « L'amour te ressemble » par Salvador Adamo. Bon, Jean-Jacques, il est un petit peu pressé, il veut nous mettre la pression. Allez, Jean-Jacques, UFC que choisir, c'est à toi.
Ouais, ceci est une chronique UFC que choisir. Automobile, acheter ou louer une voiture neuve. Désormais, la location avec option d'achat LOA, ou longue durée, LLD, est plus fréquente que sur l'achat classique d'une voiture. Les habitudes changent, mais ce mode de commercialisation comporte des inconvénients. Le choix de la location prévaut sur l'achat dans la décision de s'équiper d'une voiture, mais le phénomène s'est accentué surtout depuis quelques années. Il est aujourd'hui largement dominant. Les deux premiers motifs seraient d'abord le souhait de changer souvent d'automobile, et ensuite parce que c'est l'option considérée comme la plus intéressante, tous critères confondus. La proportion de clients,
le vendeur, hein.
La proportion de clients qui ont retenu la location en raison du prix du véhicule neuf trop élevé est moindre. Enfin, le dernier argument décisif pour certains est leur volonté d'essayer le véhicule pour éventuellement l'acheter, mais ne pas avoir à gérer la revente. Pourtant, la location sur 4 à 5 ans comporte un certain nombre de contraintes. Le forfait kilométrique, qui est presque toujours imposé, et son dépassement entraîne un coût supplémentaire.
Conséquent.
Oui. L'entretien est coûteux, parce que le recours au réseau de la marque est obligatoire et les tarifs des concessionnaires sont élevés. Les clients sont assez inquiets. Allez, écoute, hein, Josiane. Hein. Les clients sont assez inquiets des risques d'abîmer le véhicule et devoir payer la remise en état en fin de bail. L'assurance est coûteuse également lorsqu'elle couvre les principaux risques comme l'entretien régulier et l'indemnité en cas de vol ou de destruction accidentelle. Et c'est fini.
Merci.
J'étais bon.
Oui,
oh,
très
magnifique.
Bon. Bon, par contre, c'est vrai que acheter une voiture neuve aujourd'hui, c'est un peu prohibitif comme tarif. Hein.
Et, c'est très très cher.
Et les locations ou options d'achat ou longue durée. Enfin, moi, je suis toujours heurté parce que les tarifs qu'ils nous donnent, c'est pour 10 000 km par an. Donc.
Oui, ou 15 000.
Moi, ouais,
15 là l'autre jour on m'en parlait, c'était 15 000. Ça dépend des marques.
Celle qu'on voit à la télé là, le petit bandeau qui défile très très vite en bas de l'écran là.
T'as pas le temps de me lire.
C'est 36 mois, 30 000 km.
De toute façon, moi j'ai déjà relevé le truc chez l'UFC que choisir en disant jamais on te dit elle va vous coûter combien.
Oui. Oui.
On te dit ça va vous coûter tant par mois. D'ailleurs, t'écoutes à la radio. Et alors, ce que t'entends à la radio qui est dit très rapidement, ou alors comme tu dis le bandeau,
ça défile très vite. Non.
Ça me rassure parce que moi je croyais que c'était parce que j'étais vieille que j'arrivais pas à lire.
Non, ça va très très vite.
Et puis c'est souvent sur 48 mois. Hein.
Alors oui, 36 ou 48. Oui. Et l'autre fois, je suis allé voir sur le site du concessionnaire et on était à 540 € par mois pour 10 000 km par an.
Waouh!
Même qui met ce prix-là pour 1000 km par mois?
Les riches.
Ben, je ne sais pas, je comprends pas. Bref. Bon,
Ouais, c'est. Dur.
Ouais. Bon.
Au revoir, monsieur, dame.
Merci, Jean-Jacques.
Au revoir, notre Jean-Jacques.
À bientôt.
Merci pour ta chronique, c'était super.
On se retrouve dans 15 jours.
Débrouille-toi pour. Bon.
Bon. J'adore faire ces chroniques.
Débrouille-toi pour être là.
Ça me fait bosser.
Jean-Jacques, il donne le relais à Josiane. Bah, tu
n'auras Josie.
Pas. Allez. Allez, Josiane.
Allez, ma poule, vas-y.
On a perdu nos doyens. Il nous reste.
Justement, qu'est-ce que c'est qu'un campaniste?
Un quoi?
Un campaniste.
Celui qui sonne les cloches.
Non.
Celui qui va manger chez Campanile?
Non, celui qui fabrique les cloches.
Qui les conçoit, parce que celui qui les fabrique vraiment, c'est le fondeur.
Attendez, oui, attendez.
Mais le campaniste... Vous savez, c'est les cloches,
Bah, campaniste.
Campanile et tout ça. Alors, si tu veux faire une jolie petite virée...
Alors, par contre, non,
on t'entend plus.
C'est pas grave. Si tu veux en savoir plus là-dessus, tu vas à Villedieu-les-Poils.
Ah oui, c'est en Normandie.
Dans la Manche, je crois.
Et ils fabriquent les cloches?
Ah oui.
Oui, c'est là où sont fabriquées les cloches.
Et je pense qu'avec les problèmes de Notre-Dame à Paris, ils ont certainement dû revenir pour mettre tout ça
à la poêle.
Donc un campaniste, c'est celui qui fait les cloches et qui donc les accorde.
Qui les conçoit.
Hein. Merci Jean-Jacques.
Qui les installe, qui les entretient, qui les restaure. Et en même temps, bah, dans les clochers, il s'occupe aussi des horloges, des choses comme ça, quoi. Tandis que le fondeur, lui, c'est lui qui les fond. Voilà. Alors,
j'en profite pour dire que nous, il n'y a pas très longtemps, avec Adonis, on a fait sonner les cloches. Hein. C'était où Adonis? Ah bah bon, bravo.
C'était à Saumur, je crois.
L'abbaye de Fontevraud.
Oh, magnifique.
Et dans les jardins, vous avez des cloches que vous pouvez faire sonner.
Alors, tu connais l'expression aussi, attention, tu fais une bêtise, tu vas te faire sonner les cloches.
Ah oui.
Ah bah, ça veut dire que tu as fait vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas et que papa ou maman, ils vont se fâcher.
Bon, on n'est pas comme ça, ça va.
D'accord.
Bon. Ok, donc le compagnie, c'est bon.
Voilà, puisque tu m'avais demandé de retrouver
des métiers
anciens, un métier qui existe toujours, un tonnelier.
Bah, c'est celui qui fabrique les tonneaux.
Oui.
En bois.
Oui.
En bois.
C'est vrai que c'est réservé maintenant à quelques domaines de vin, mais bon, je pense que ça existe toujours.
Ah oui, ça existe toujours, bien sûr. Un taxidermiste.
Ah, c'est celui qui met, qui rend en paille les animaux.
Ah. Ouais.
C'est ça?
C'est ça.
Avec Kiki sur le bord de la cheminée.
C'est ça. Oh, quelle horreur.
Mais non, c'est bien.
Alors, dans nos campagnes autrefois, on voyait passer un rémouleur.
C'est celui qui affûte les couteaux.
Oui, et les ciseaux.
Et les instruments aussi de la ferme, les faux, tout ce qui a besoin d'être... aiguisé.
Oui.
Alors, un métier qui existe encore en Maine-et-Loire, à Saumur plus exactement, un patenotier.
Allez, tu me l'as déjà dit, mais je l'ai oublié.
Alors là, un patenotier.
Et à Saumur, il y en a encore.
Ah si, c'est avec le domaine des chevaux.
Non, pas du tout.
Bon, si, allez, non.
Non, c'est pas un patenotier, hein.
Un patenotier?
Oui.
Ben, je sais pas. Eh bien,
il travaille pas le cuir?
Non, il fabrique des chapelets.
Ah oui.
Ah, c'est vrai.
Bon.
Voilà.
Alors, pâteux comme les pâters? Noster?
Voilà.
D'accord.
C'est ça, voilà.
J'avais pas fait le rapprochement. Okay.
Alors, un métier qui a disparu, hein, mais qui avait donné lieu à une chanson très, très, très connue. Qu'est-ce que c'est qu'un poinçonneur?
Ah bah c'est celui qui poinçonnait les tickets dans le métro. Voilà.
Mais oui.
Et dans les petits trous.
Et dans les gares.
Des petits trous.
Ils ont fait leur trou, ceux-là.
Oui, c'était pour éviter les sportifs de sauter par-dessus les barrières et de pas payer. Ça,
c'était à l'époque où il y avait encore une première et deuxième classe dans le métro, ça.
Exactement.
Ouais. Voilà.
Alors, une expression, bah toi tu dois connaître.
Allez Adonis.
La bonne. Toi.
Ouais.
La bonne.
La bonne. Bah, c'est une servante, c'est une boniche.
Alors, c'est un terme qu'on n'utilise plus. Maintenant, en fait, c'est une employée de maison.
Voilà.
Oui, je trouve ça très péjoratif.
Voilà. Parce que...
Alors, boniche, c'est vraiment terrible.
J'ai pas fini son éducation.
Oh, dis donc, il est cash, hein.
Alors, on avait aussi, passant dans nos villages, ce qu'on appelait des chiffonniers.
Ah oui, c'était ceux qui prenaient les pots ou les choses comme ça, non ?
Le chiffonnier.
Pot de lapin, pot.
Oui, c'est ça. Ben,
voilà. Rien à voir avec les chiffons, donc.
Non.
Si, parce qu'ils venaient récupérer et racheter les choses usagées.
Ah.
D'accord.
Le chiffonnier. Alors, je sais pas si ce terme existe encore. Un cantonnier.
Ah bah c'est celui.
C'est l'ancien qui
rabibochait les routes. Il mettait des cailloux pour combler les trous.
Il vidait les fossés.
Oui.
Oui.
Voilà, c'était celui qui entretenait les routes.
Du canton.
Voilà. Et puis ben le dernier que je vais vous proposer, qu'est-ce que c'est qu'un lapidaire?
Ah, c'est pas un, celui qui taille les pierres.
Oui, les pierres précieuses.
Les pierres précieuses.
Les pierres précieuses.
Voilà. C'est d'actualité en ce moment.
Voilà,
peut-être qu'il y en a qui vont avoir du boulot avec les bijoux du Louvre.
Ah ben oui, parce que pour les revendre, il faut quand même. Bon, ben, ça doit être tout.
Bon. Bah merci Josiane. Bon,
bah, voilà. La prochaine fois, on fera les fables de La Fontaine.
Bon. Oh, chouette.
Les amis, le temps passe et Jacqueline, elle voulait nous faire écouter les sons de l'automne. Donc, je vous propose tout de suite d'écouter un petit son de l'automne, mais cette fois par Vivaldi. On l'écoute tout de suite. Pour toi, Jacqueline.
Merci.
Bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cet air de Vivaldi ?
Oh, c'était un concerto. Enfin, ça fait partie des quatre saisons de Vivaldi, qui elles-mêmes font partie d'une série de 12 concertos que Vivaldi a composé pour un mécène. Et là, ça représentait en fait des danses villageoises qui célébraient l'automne et les vendanges.
Bon. Bon, c'est un petit peu derrière nous, hein. On va bientôt être à l'heure d'hiver.
Oui,
on va dormir une heure en plus, ça c'est pas mal.
Oui,
mais
c'est vrai.
Bon, les vendanges sont loin maintenant.
Un petit peu loin, mais enfin, les belles couleurs de l'automne sont tout à fait d'actualité.
Bon, cet air de musique, il a sûrement été joué dans l'année 1968, c'était l'année des trois morceaux précédents. voilà, mais oui, Joe Dassin, Sylvie Vartan et Salvador Adamo,
1968,
c'était 1968.
Oui, bah, oui.
Mais bon, je pense que la musique classique en 68, ça devait pas être la musique la plus populaire.
Dans les rues, à mon avis, c'était pas ça.
On a redécouvert Vivaldi dans ces années-là avec un ensemble qui s'appelle I Musici. Et ça fait un carton parce que c'était une musique qu'on avait laissée complètement pendant des dizaines d'années, et on a commencé à revoir la musique baroque dont Vivaldi fait partie, et à la découvrir. Et il y a des ensembles de grande qualité qui ont remis au goût du jour toute cette musique que l'on a complètement redécouverte.
Bon, vous l'aurez compris, cher auditeur, Jacqueline, c'est notre pro de la musique classique, mais pas que, c'est de la culture en règle générale. Et justement, est-ce que tu as des recommandations d'exposition ou autre à nous faire là, pour les 15 jours à venir?
Nous sommes donc encore en plein dans les vacances de la Toussaint, et pour les grands-parents, les parents qui ont des possibilités d'emmener leurs enfants, vous avez la patinoire qui est ouverte en particulier le 1er novembre et qui est avec un tarif à 50%. Tous les musées sont gratuits le dimanche 2 novembre, donc c'est une manière de pouvoir se balader en famille et puis d'appréhender un peu la culture que les musées angevins vous proposent.
Et on rappelle que c'est mal de voler les œuvres dans les musées.
Ah bah ça oui, c'est pas du tout recommandé. Et puis vous avez une exposition, Le Chant des Ondes, au château d'Angers, qui propose des ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans pendant toutes les vacances de la Toussaint. Et ensuite, vous avez le musée Espace Passion à Marseille, qui propose une exposition de 5000 figurines des Playmobil tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 3 novembre. Le tarif d'entrée est de 4 euros et 7 euros pour les adultes.
Ok. Merci.
Et voilà, plein de promenades, plein de musées, plein de belles choses à découvrir.
Bon, on a été un petit peu pris par le temps, on n'a pas fait l'éphéméride.
Bah non.
Excuse-moi.
C'est pas grave, j'avais pourtant préparé tout un tas de choses.
Dis bonne fête au moins au sein
Alors,
du jour.
Alors, bonne fête aux Emmeline, aux Cristal, aux Christelle, aux Magloire.
Bon, eh bien voilà, excusez-nous, on n'en dira pas plus, mais on se retrouve dans 15 jours pour remettre tout ça bien d'équerre, j'espère.
Avec grand plaisir.
Merci Josiane.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci
à bientôt.
Jacqueline.
Merci Raphaël, merci aux auditeurs et auditrices.
Merci à tous, merci à Denis. Bon, on se retrouve pas dans 15 jours, non, hein, tu retournes à l'école. Hein.
Non,
flemme. Eh ben si, et il va falloir qu'il y retourne. Allez, bonne semaine à tous, et n'oubliez pas d'écouter Samedi Bonheur, Dimanche Bonheur, et puis Samedi Souvenir, pardon, Dimanche Bonheur, et puis retrouvez-nous dans 15 jours, le lundi. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
J'adore. Le jeu avance. Ce sont là.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.